Véronique Rich-Fleurès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste. On va parler avec vous de la situation, notamment en Europe et puis également sur les autres zones. On s'inquiète beaucoup. On s'est inquiété sur les marchés récemment après avoir complètement oublié peut-être ce qui se passait en Italie, sur l'économie italienne et sur les questions de dette. Vous avez écrit récemment, justement, vous avez fait un point là-dessus sur la situation italienne. De votre point de vue, il y a encore pas mal d'incertitudes sur la réduction de la dette italienne?
Beaucoup d'incertitudes, pas seulement sur l'Italie, je dirais. Ce qui est un peu surprenant quand on est économiste, c'est qu'on voit effectivement le consensus, les prévisions du FMI, des agences de notation, etc., qui toutes nous prédisent un pic sur la dette publique à horizon d'un ou deux ans. Et quand on est économiste, qu'on connaît un petit peu les problèmes structurels de croissance qui se posent à des pays comme l'Italie, on peut parler de l'Espagne également, forcément on s'interroge sur ce qu'il y a derrière ces prévisions. Et il s'avère qu'en réalité, ces prévisions ont toutes un biais très positif, en particulier sur les perspectives de croissance, hein, qui, sous couvert de réformes à venir, dont on précise d'ailleurs assez rarement le contenu, sont supposées recréer une croissance potentielle beaucoup plus solide et souvent d'ailleurs à peu près égale à ce qu'on avait par le passé. Donc il y a effectivement, je crois, là des hypothèses qui sont très très optimistes, hein, qui pour l'instant semblent, dans le cas de l'Italie notamment, je dirais presque fantaisistes, hein. La réalité de la situation italienne étant quand même très très endommagée, il faudra assurément du temps pour que dans le meilleur des cas, on arrive à retrouver une croissance qui permette d'envisager de résorber les dettes, parce que sans croissance, on n'y arrive pas. Et je pense que la démonstration de ces deux ou trois dernières années est bien là pour nous le rappeler. Donc oui, beaucoup d'interrogations. Alors, d'autant plus quand on est à la veille d'élections, dont on suppose qu'effectivement le résultat risque d'être assez compliqué pour offrir une majorité qui ait des marges de manœuvre et une force de frappe, si on peut dire, une force de frappe politique suffisante pour avancer sur le plan des réformes. Donc, probablement qu'effectivement, il faut regarder les choses de près.
Alors, vous parliez à l'instant aussi également de l'Espagne. C'est vrai qu'on se souvient de l'origine de la crise espagnole, hein, avec l'immobilier. On savait à l'origine que ça prendrait du temps tout de même à ce que l'Espagne revienne. Et là aussi, on se pose à nouveau des questions sur à quand une vraie croissance en Espagne, effectivement, et combien d'années ça va prendre avant de résorber ces questions liées au sujet immobilier.
Tout à fait. L'Espagne est très pauvre, hein. L'industrie s'est très peu développée durant toutes les années de post-accession à l'euro. Finalement, toute la croissance est provenue de l'immobilier, de la construction, au détriment de l'industrie, qui a plutôt pâti d'ailleurs de ces années-là. Alors aujourd'hui, post-crise, c'est vrai qu'on a l'impression que finalement cette économie est complètement nue, il ne reste plus rien. Ce n'est pas tout à fait le cas néanmoins, parce que au moins, si je puis dire, surtout en comparaison du cas italien, au moins en Espagne, on a l'impression que la crise a ses effets, produit ses effets. Lesquels? Eh bien, en particulier, une amélioration de la productivité très rapide, hein, qui permet une baisse des coûts, de sorte que l'Espagne regagne un peu en compétitivité. Et on le voit d'ailleurs avec des projets d'entreprise ou des débuts de flux de capitaux qui reviennent en Espagne, hein, de capitaux productifs. Donc, c'est le petit encouragement sur fond, effectivement, de délabrement de la demande domestique. Et là, ça prendra probablement plusieurs années avant de combler les pertes qui ont été accumulées depuis l'éclatement de la bulle immobilière. Alors, de la même sorte, en Espagne, prévoir dans ce contexte-là un pic sur le taux d'endettement public paraît complètement illusoire. Il semble néanmoins qu'une des grandes différences avec l'Italie, alors c'est vraiment banal ce qu'on peut dire, mais il faut le rappeler, le taux d'endettement initial est essentiel. L'Italie est déjà sur des niveaux d'endettement qui sont de plus de 125% de son produit intérieur brut. L'Espagne est plutôt légèrement en dessous de 90%. Et donc ça fait toute la différence. C'est-à-dire que le chemin à parcourir pour stabiliser la dette espagnole, en dépit de la dégradation conjoncturelle économique actuelle, semble un peu plus accessible. Donc on peut imaginer une stabilisation un peu plus rapidement sur des niveaux, allez, 110-115% du PIB, c'est très élevé encore, hein. mais c'est un petit peu plus encourageant que dans le cas d'Italie.
Alors, on a parlé de ces pays dits périphériques, mais qui préoccupent effectivement les investisseurs. On avait parlé ensemble la dernière fois que vous étiez venu de la situation de la France, c'était question de la France. On voit parfois certains investisseurs se dire que finalement, le problème européen va être le problème de la France, c'est-à-dire cette absence de croissance en France en 2013 et les questions liées à capacité à retrouver de la croissance.
Et oui, c'est toujours le même problème. Dès qu'on est privé de croissance et qu'on perçoit dans les faiblesses des éléments structurels qui laissent supposer qu'effectivement cette faible croissance risque de perdurer, compte tenu des niveaux d'endettement actuels, eh bien, se pose la question effectivement de la soutenabilité de la trajectoire de la dette et de la possible inversion de cette trajectoire. Alors, quand on analyse la situation en réalité de la France, finalement, qu'on décortique un petit peu ces problématiques d'endettement, de soutenabilité, etc., la France n'est pas du tout dans le cas des deux autres pays, de l'Espagne ou de l'Italie. D'abord parce qu'on a un taux d'endettement effectivement plus proche de celui de l'Espagne que celui de l'Italie, ça c'est le premier point. Un coût de la dette qui est effectivement plus faible, 3% en termes de charges d'intérêt, à comparer avec 4%, un point de différence, ça fait beaucoup, hein, ça fait un quart de moins. Et puis, fondamentalement, les structures de l'économie française, bien qu'appauvrie, et on connaît tous maintenant, je pense, tous les problèmes, en particulier de compétitivité, les structures de l'économie française sont bien plus solides que ce qu'on a en Italie ou en Espagne. On a notamment en termes de productivité, toujours le niveau de productivité horaire en France, le plus élevé des pays européens. Donc ça, c'est un atout qu'il faut entretenir. C'est peut-être le plus difficile. Et ça nécessite sans doute effectivement un certain nombre de réformes et de progrès. Néanmoins, on a cet atout-là. L'autre atout, c'est celui de la démographie, d'une population finalement qui se régénère, hein, et d'une population de jeunes, en particulier d'actifs qui se régénèrent. Et ça, c'est véritablement effectivement un atout structurel. De sorte qu'on ne peut pas, en France, imaginer travailler sur des hypothèses de croissance structurelle de 0,5%, ça n'a pas de sens. Hein. On est plutôt au-dessus de 1%. Mon scénario central est plutôt à 1,5% sur le moyen terme. Maintenant, si on peut travailler sur une hypothèse de risque, allez, on coupe en deux, et bien même avec une croissance de 0,8% par an, on arrive très rapidement à infléchir le cours de la dette avec des efforts très accessibles. En Italie, il faut un excédent des finances publiques primaires de 5% du PIB. En France, c'est 0,5 point. C'est très accessible, même si on en est encore loin. Donc, il y a un chemin à faire à court terme, mais ça reste du domaine de l'accessible.
La question justement des fameux 3% de déficit, on va se reposer la question en 2013 si c'est tenable ou pas pour la France.
Je pense qu'on est déjà en train de préparer le terrain. Quand on annonce effectivement que la prévision de 0,8% de croissance est peut-être mise à mal si l'euro reste sur les niveaux présents, donc on voit bien qu'effectivement on va commencer par dire que ce ne sera pas possible d'atteindre la croissance prévue et que de facto le déficit ne sera pas de 3%. C'est pas très grave parce qu'en définitive, je pense que ce qu'on comprend de l'action du gouvernement, ça a été tous ces derniers mois de préparer cette annonce, de la préparer en mettant sur pied des réformes qui vont dans le sens de ce qu'attendent les marchés, de ce qu'attendent la plupart des économistes pour restaurer un petit peu le potentiel de développement de l'offre de notre économie. Une fois qu'on a fait ce travail-là, on peut dire bah, effectivement, on sera pas 3% cette année, mais on est dans la bonne direction. Et ça peut passer. Je pense qu'effectivement, on pouvait avoir un peu plus d'interrogations il y a quelques mois. Aujourd'hui, les choses semblent sous contrôle.
Eh bien, merci d'avoir fait le point avec nous, hein, Véronique Rich-Flores. Je rappelle que vous êtes donc économiste et donc fondatrice, hein, du cabinet Rich-Flores Research.